Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 8 janvier 1998 à Saint-Jeudard.
De la découverte de la causalité finale. J'espère que vous en avez rêvé. Parce que quelquefois on fait des rêves métaphysiques qui sont merveilleux déjà. vous enseignez la théologie, mais vous l'enseignez dans un sens qui n'est pas selon saint Thomas. Est-ce que je dirais ça, saint Thomas va dire oui, c'est vrai. Or, selon vos constitutions, vous n'avez pas le droit d'enseigner la théologie contre Thomas d'Aquin. Il faut de temps en temps se rappeler les choses. Si on cherche la vérité au point de vue philosophique, et si on veut défendre la foi, ou plus exactement, découvrir tout ce qui est impliqué dans la parole de Dieu, toute la richesse de la parole de Dieu, on est théologien. Le théologien n'est pas autre chose que cela. C'est pas le professeur de théologie qui le rend théologien. On doit être théologien avant de l'enseigner. Normalement. Alors, c'est très important de comprendre comment Don Scott arrive à cette position et comment cette position a dominé dans le thomisme jusque Jean de Saint-Thomas. Jean de Saint-Thomas, un franc-comtois qui, à cette époque, était espagnol. Faut pas l'oublier. Un franc-comtois à l'époque de Descartes. Et à l'époque de Descartes, ce théologien dominicain, remarquable pour des quantités de choses, accepte de dire que la causalité finale est une causalité métaphorique. Mais pour moi, c'est suffisant pour montrer que le ver rongeur a pénétré la scolastique. Alors là, c'était tout à fait au début, au point de départ, là, ça n'avait pas tout pénétré. Les pontomistes avaient référence avec saint Thomas. Et chercher dans Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin dit exactement ce qu'Aristote dit, que la causalité finale, c'est la cause des causes. Si la causalité finale est la cause des causes, si vous dites que la causalité finale est métaphorique, vous supprimez l'intelligibilité métaphysique de la causalité. Et la, ne comprenant plus la causalité, vous n'avez plus qu'une seule manière de penser, la dialectique. Mais tout se tient. Et ça, il faut bien saisir ça, il y a dans l'engrenage. Donc, pour nous, le premier devoir, ceux qui promesse qu'un jour on verra Dieu face à face suffit pour maintenir le réalisme de notre espérance et de notre amitié à l'égard du Christ. Parce que c'est une promesse divine, donc infaillible. Quand Dieu promet quelque chose, c'est déjà réalisé. Parce que c'est dans l'éternité. Tandis que moi, quand je promets quelque chose, c'est dans l'intentionnel. Je promets à quelqu'un que je serai là à telle date. C'est très très bien pour ordonner les cours. Mais ce n'est pas suffisant pour le point de vue de l'amitié. Sauf si c'est déjà une amitié. C'est très important de voir que l'intentionnalité de notre vie spirituelle, de notre vie intellectuelle, de notre vie affective, l'intentionnalité suffit s'il y a lui-même, mon ami. Vous voyez, il y a quelque chose qui est très difficile à préciser, puisque nous n'avons pas de mots. Dans la quantité, nous avons des quantités de mots. Mais l'amour réclame l'unité pour aller jusqu'au bout de ses exigences d'amour. Donc, pour permettre l'aspect extatique de l'amour, quand j'aime mon ami, je suis plus auprès de lui qu'auprès de moi. Au point de vue intentionnalité, je le sais. Et c'est pour ça que la présence de l'ami envahit mon amour, envahit ma volonté. C'est sur lui que je m'appuie, et non plus sur moi. Il y a ce moment décisif de la connaissance du cœur de l'ami, et donc de la découverte de l'ami comme tel, comme personne, capable de susciter en moi cet amour. C'est en ce sens-là que l'amour véritable demande une vie commune, demande du temps. Il y a des intuitions affectives qui permettent l'amitié, mais l'enracinement de l'amour met du temps avant d'arriver à cette expérience de l'autre dans ce qu'il a de plus profond et qui me dévoile à moi-même ce qu'il y a de plus profond dans ma volonté. À ce moment-là, la distinction affectivité et efficience disparaît. J'aime et je veux aimer. Et dans l'amitié, il y a toujours ce fait de vouloir aimer. on est dépendant du temps. On est dépendant du lieu. Et c'est en ce sens-là qu'on dira que si on est très séparé. J'habite New York et j'habite Paris. Maintenant, les distances ne signifient plus grand-chose, puisque on peut téléphoner. Les lettres ne suffisent plus. Les fax ne suffisent plus. Téléphone, c'est déjà beaucoup. En attendant qu'on puisse se voir. Un téléphone un peu plus perfectionné, qu'on puisse se voir. Alors à ce moment-là, il y aura le regard qui servira d'un instrument, mais il y aura quand même le regard. Et puis il y aura la voix. La passion est terriblement dépendante de ça. Tandis que l'amour d'amitié spirituelle va au-delà. Mais au début, quand il est dans le devenir, dans l'acquisition, la passion joue beaucoup. La passion aide, et la passion éveille, et la passion maintient éveillé, et terriblement éveillé. On n'a jamais trouvé le temps aussi long que quand on est passionné. D'habitude, le temps, c'est pas terrible. On a sa main devant soi pour ça. Parce qu'elle mesure le temps, elle domine le temps, elle l'objective, alors que la passion veut brûler le temps, elle veut brûler les lieux. C'est très important pour nous de comprendre que l'amour d'amitié se sert de la passion, mais dépasse la passion. On n'arrivera jamais un véritable amour d'amitié si on reste au niveau passionnel. Tandis qu'au niveau de l'esprit, on touche la personne. Et alors, on est lié d'un lien spirituel. Idem velle. Le même vouloir. Et dans le choix amical, le point de vue affectif et le point de vue effectif sont liés. Marquez qu'ils ne sont jamais absolument liés, parce qu'il y a toujours un certain devenir. Je peux toujours aimer plus. Et la passion, au point de vue de la conscience, est toujours première. C'est bien que point de vue passionnel, on dit je ne te sens plus, tu ne m'aimes plus, pardon, je veux t'aimer, et c'est ça l'amour. Alors l'autre dira, mais c'est pas ça du tout que je veux, c'est ton amour actuel. Ah, donc, pour rester un amour actuel, tu fais appel à la passion. Et c'est vrai, c'est très souvent ce qui se passe. Et si la passion demeure, on ne dépassera pas la passion. Et on sera esclave de la passion. Et l'amour d'amitié va impliquer une certaine dépendance qui peut aller très loin. Parce qu'on peut en mourir. On peut mourir par une passion non satisfaite. On veut l'unité de lieu et de temps. Une présence visible, sensible. Mais la philosophie de l'amour d'amitié doit nous rendre extrêmement lucides. Nous avons besoin de la sensibilité, mais nous la dépassons. des ailes, de nous donner un nouvel élan. Ça nous rabat sur nous. C'est pas commode, la purification de l'amour d'amitié. Mais c'est capital au point de vue moral, surtout aujourd'hui, où on ne peut pas dire que l'éducation d'aujourd'hui nous fait briller par la vertu. Non. On est moins vertueux qu'avant. Marquez, c'est pas un mal si on aime plus et si on arrive à aimer.
Peut-être
touche la personne, l'ami. Alors l'expérience de l'ami comme bien substantiel, personnel, exige ce dépassement de la passion, ce dépassement de l'accaparement de la passion. capacité d'aimer. Et me permet d'aller beaucoup plus loin. Et la conséquence immédiate, c'est que la charité mûrit ma volonté humaine d'une façon étonnante. On voit ça dans Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Si on la lit, histoire d'une âme, avec ce souci de voir émerger une volonté, on voit que cette volonté émerge d'une manière étonnante par le désir, par un désir qui est dans le spirituel, qui n'est pas du tout passionnel. Donc là, il y a une expérience qu'il ne faut jamais oublier. Et je crois qu'on l'a beaucoup trop oublié. Parce que si on l'avait, on ne pourrait jamais dire que l'expérience que j'ai de mon ami est métaphorique. Pas possible. Elle est réelle. Et elle touche ce qu'il y a de plus fondamental dans ma volonté. Dans mon cœur, dans ma volonté. Et elle permet à ma volonté de comprendre que l'intentionnalité dans le choix amical rejoint une réalité personnelle dans le jugement. Et c'est peut-être là où Oh, arrête! Ne perfectionne pas trop. Ça n'aura plus le même caractère. Ce sera trop léger, ça n'ira plus du tout. Il y a un moment, c'est très très curieux, il y a un moment vais redécouvrir ma liberté d'artiste. Il y a un moment, vous voyez, il y a un moment où on voit le passage de l'œuvre qui est une œuvre. Et en tant qu'œuvre, elle finalise. Et en tant c'est ce que je porte en moi qui finalise mon œuvre.